Chapitre 37. Personne ne m'a jamais aimé. Toc, toc, toc. Le pigeon s'était posé sur le rebord de la fenêtre de la chambre impériale et frappait à petits coups de bec contre le carreau. Toc, toc, toc. Diamante ouvrit les yeux. Un grand soleil l'aveugla. Elle consulta aussitôt la pendule d'argent posée sur la cheminée face au lit. Midi et demi. Jamais elle ne s'était réveillée aussi tard. Et pourtant, rien ne pressait. Encore engourdie par le sommeil, elle savoura la douceur des draps de soie sur sa peau de gitante, le moelleux des oreillers de plumes contre sa nuque. La veillée du sanctuaire avait été longue. Elle ne s'était endormie qu'au milieu de la nuit. En tant qu'impératrice, elle s'était personnellement assurée que chaque corporation soit dignement représentée dans le spectacle laser offert à tous les citoyens de l'Empire, y compris les Prémats. Elle avait supervisé l'ensemble de la cérémonie, de son aménagement jusqu'à son rangement. Les serveurs, balayeurs, repasseurs, rippers, cuisiniers l'avaient longuement applaudie. Elle s'était endormie apaisée. Diamante traînait toujours dans le lit impérial, peu motivée pour se lever, se laver, s'habiller, quand Augenor entra dans la chambre. Il fit rouler son fauteuil jusqu'à elle, le gara devant le lit et effleura ses lèvres. Diamante trouva Augenor fatigué, tendu, préoccupé. C'était le cas depuis plusieurs mois déjà. Son éternel sourire de vainqueur trompait peut-être les consuls, les généraux et les soldats, mais il ne la trompait pas. Elle. Quelque chose rongeait l'empereur de l'intérieur.
Oh, je suis désolée,
fit Diamante en s'étirant comme une chatte dans une flaque de soleil.
Je crois que c'est la première fois que je fais une telle grasse matinée. Et toi? Tu t'es couché encore plus tard que moi? Tu ne te reposes jamais?
Augenor fixait le pigeon qui, lassé de se casser le bec au carreau, picorait des miettes de pain sur le rebord de la fenêtre.
« Je n'ai pas le choix, » répondit-il énervé. « Depuis ce matin, tout s'est encore accéléré. Les patrouilles ont compté 29 drapeaux arc-en-ciel supplémentaires dans les rues, et l'observatoire de Paris a été détruit. Ces rebelles ne sont pas nombreux, mais ils sont plus actifs que je ne pensais. »
« Ils ne peuvent rien contre l'Empire, » le rassura Diamante. « Oublie-les !»
Elle repoussa les draps et s'assit sur le lit. Le satin ivoire de sa chemise de nuit glissa sur ses jambes dorées. « Sans compter que chaque jour, » continuait Augenor, « de nouveaux déserteurs rejoignent l'île de Luponera. Malgré ma promesse, je ne vais pas pouvoir éternellement le tolérer. »«
Tu as besoin de calme, de repos, juste une petite heure. »
Elle se déplaça, sans quitter le matelas, pour se positionner derrière Augenor. Ses mains enveloppèrent les épaules de l'empereur.
« Ne bouge pas. Un massage te fera du bien. »
Le grand cerf ne répondit rien, mais s'abandonna aux gestes experts. Les mains fermes de Diamante malaxaient la nuque, les cervicales, les trapèzes du grand cerf. Elle en profitait pour déposer au passage quelques baisers le long de sa colonne vertébrale.
« Tu aimes ? Pour une fois, laisse-toi aller. »
Augenor semblait enfin se détendre. Sa respiration se faisait plus lente. Ses mains tombaient aussi mollement que ses jambes le long du fauteuil roulant. Diamante colla sa poitrine contre le dos du grand cerf et passa ses bras autour de lui pour ouvrir un premier bouton de sa chemise.
« Vide ta tête, » murmura-t-elle.
Le regard d'Augenor était toujours braqué vers la fenêtre.
« J'aimerais tant, mon diamant. Mais il y a plus grave que ces drapeaux bariolés et ces poseurs de bombes. »
Elle fit sauter un deuxième bouton.
« Juste une heure, Augenor, sans penser à rien. À rien d'autre que nous. »
Il y a un traître dans le palais.
Les mains de Diamante restèrent agrippées au troisième bouton. Son cœur battait à tout rompre contre le dos d'Augenor. Impossible qu'il ne s'en rende pas compte.
Comment le sais-tu?
Je le soupçonnais, depuis qu'Alix et Zizo se sont introduits dans le palais. Mais c'est devenu une certitude. Depuis quelques heures, la rumeur enfle dans les rues de Paris. Je ne serai pas le fils de Marie-Lune. C'est une calomnie qui est née au sérail et qui n'a pu en sortir que si l'une des nourricières a parlé.
« Une des nourricières ?»
répéta bêtement Diamante.
« Toc, toc, toc. »
Augénor, sans lâcher des yeux la fenêtre, prit doucement les mains de Diamante et les reposa sur ses épaules pour réclamer de nouvelles caresses. Diamante s'exécuta, laissant ses doigts agir, déconnectés de sa tête. « Et, demanda-t-elle, tu as une idée de son identité ?»«
Oui. »
Les trapèzes, les deltoïdes et les dorsaux d'Augénor étaient aussi fermes que l'écorce d'un chêne. Diamante n'avait pas touché beaucoup d'autres garçons, mais il lui semblait que les muscles du tronc d'Augénor étaient exceptionnellement développés, comme si toute sa force s'était concentrée dans le haut de son corps.
« Les nourricières,
balbutia Diamante, n'ont aucun contact avec l'extérieur. Elles ne peuvent donc pas. La traîtresse n'est pas une nourricière. » trancha Augénor. Diamante sursauta. Son cœur venait de subir un nouvel électrochoc. Pas une fois depuis qu'il était entré dans le salon Pompadour, l'empereur ne l'avait regardé. Ses yeux demeuraient obstinément tournés vers le ciel, enfin redevenus aussi bleus que ses yeux.
« C'est quelqu'un de proche, » précisa Augénor.
« De très proche, à qui j'ai accordé toute ma confiance. »
« Il faut crever l'abcès, » pensa la gitante.
« Vite, avant que ses mains, son cœur ne puissent plus rien contrôler.
« Tu ne crois tout de même pas que c'est moi ?»«
Toc, toc, toc.
« Tu ne crois tout de même pas, »
poursuivit Diamante,
« que je puisse utiliser ce pigeon pour communiquer avec les rebelles ?»«
Comment sais-tu que le traître communique grâce à un pigeon ?» Les mains de Diamante se crispèrent sur les épaules de fer du grand cerf.
Je n'en sais rien. C'est toi qui regardes cet oiseau depuis que tu es entré. Ce n'est pas parce que je lui jette des miettes de croissant chaque matin après le petit déjeuner que...
Elle se tut. Des larmes coulaient sur ses joues et roulaient dans le cou de l'empereur. La voix d'Augénor ressemblait à celle d'un robot récitant sans émotion un texte enregistré.
Tu es la seule, Diamante. La seule qui entre dans le sérail. La seule qui parle avec les nourricières. La seule qui sort du palais.
La gitante se jeta soudain en arrière. Elle rampa jusqu'à l'oreiller pour y enfouir son visage, l'essuyer, avant d'enfin faire face à Augénor et de le forcer à la regarder. Les yeux de l'empereur étaient aussi inexpressifs que sa voix. Un sourire triste s'afficha sur son visage.
« Ça ne fonctionne plus, Diamante. Tes yeux mouillés, ton corps doré. Tu m'as ensorcelé comme personne d'autre ne peut s'en vanter, mais c'est terminé. Je crois que je dois te remercier. Tu as exploité ma seule faiblesse. Une faiblesse dont je n'avais aucune idée. Quelque chose qui doit ressembler à l'amour. Et tu m'as vacciné. Ce petit chagrin passera vite, je suis désormais immunisé. »
Diamante, secouée de spasmes, pleurait.
« Comment tu peux croire ça ?»«
Tu ne poses pas la bonne question, Diamante. La bonne question, c'est « Comment ai-je pu être aveugle si longtemps ?»« Ton frère de cœur, ce Mano, appartient au camp des rebelles. Tu as passé tout l'hiver de fer avec eux dans les catacombes. Tu n'as jamais changé de camp, Diamante. Tu travailles pour eux. Tu t'es sacrifié pour m'approcher. » Pour me séduire, pour me trahir. »
Diamante se pencha vers le grand cerf, tremblante, implorante, le visage ravagé de larmes.
« Non, je te jure que non !»
Elle posa sa tête sur les genoux de l'empereur. Ses cheveux décoiffés tombèrent le long des jambes mortes d'Augénor. Il ne la repoussa pas et caressa sa joue mouillée. « Si ce n'était pas pour me trahir, pourquoi... une fille comme toi serait-elle restée avec moi ?»«
Parce que je crois en toi. Parce que je crois en l'Empire. Parce que sans toi, le nouveau monde serait pire. Parce que je suis utile à tes côtés. Parce que tout le monde m'aime comme impératrice. Et parce que je t'aime.
Tu m'aimes. La main de Génor descendait sur la nuque de Diamante, s'attardait sur son cou. Tu es encore plus manipulatrice que moi. Plus sournoise. Plus froide. Avoue. Avoue à quel point je t'ai dégoûté. À quel point cela t'a coûté de coucher avec un monstre tel que moi, d'unir ton corps parfait à celui d'un handicapé. L'agitante était secouée de lentes convulsions.
Je t'aime. Tu ne pourras jamais rien contre cela, Eugénor. Je t'aime.
Les deux mains de l'empereur, doucement, se refermèrent sur le cou de l'impératrice. Non, Diamante. Ni toi, ni personne ne m'a jamais aimé. Il commença à presser sa carotide et sa trachée artère. Diamante toussa, incapable de prononcer le moindre mot. Son corps se raidit, ses bras fendirent le vide, puis ses doigts s'accrochèrent à ce qu'il trouvait, un drap de soie, un coussin. Et soudain, ils se refermèrent sur le manche en nacre du couteau que Diamante dissimulait sous son oreiller. Elle le leva à l'aveugle, balaya l'air au-dessus d'elle, espérant toucher le grand cerf. Sans y parvenir, Génor s'était reculé. Plus rapide qu'un serpent, il saisit le poignet de l'impératrice avant que la lame s'abatte à nouveau. « Tu comptais me tuer pendant mon sommeil ?» Diamante était à bout de force. Gorge violacée, poignet comprimé, doigts crispés.
« Non !»
suffoqua-t-elle.
« C'était juste... pour me défendre, tu me fais peur depuis que tu me soupçonnes. »
Eugénor resserra encore son étreinte autour du poignet de l'impératrice. La main de Diamante devint pâle, formant un contraste saisissant avec le reste de sa peau brune. Ses doigts s'ouvrirent les uns après les autres, incapables de résister. La main droite de l'empereur accepta comme une offrande le couteau nacré que l'impératrice abandonnait. « Merci. Grâce à toi, plus jamais je n'aimerai. » À travers ses lunettes en demi-lune, il plongea une dernière fois son regard dans celui de l'agitante, deux yeux noirs en amande où il lisait toute la profondeur, toute la beauté du monde, tout ce que l'humanité avait de plus précieux. Tout ce qu'il devait reconstruire, toute la responsabilité que lui seul avait la force d'assumer par son unique volonté. Puis il planta le couteau dans le cœur de Diamante.